Mitzrayim, le récit de la sortie d'Égypte, manger les matzot et manger le Korban Pessah. C'est trois mitzvot de Horaïta. Les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils ont fait quelque chose comme le Korban Pessah. Ils ont mangé des matzot avec le Korban Pessah parce que c'est ça qui était prescrit. Ils en ont mangé après parce que la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter. Mais évidemment, ils n'ont pas raconté la sortie d'Égypte, ils étaient dedans. Hazal disent que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah Kula. Avraham Avinu n'a reçu qu'une seule mitzvah. La seule mitzvah qu'il a reçue, c'est la Mila, la circoncision. Mais lui, il a compris la nécessité des mitzvot et il a accompli toutes les mitzvot. S'il a accompli toutes les mitzvot, alors lui aussi, il a appliqué les trois mitzvot, si pour Yetziat Mitzrayim, Achilat Matzah et Korban Pessah. Donc, ce qui est constant, si on peut parler comme ça, chez Abraham, Avinu, chez nos ancêtres qui sortent d'Égypte, chez nous, au temps où on avait le Beth Amikdash, et chez nous, quand on n'a pas le Beth Amikdash, c'est le Korban Pessah. Nous, le Korban Pessah, il a son nom de quoi? Du fait que Hachem, il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël. Comme on dit en anglais, c'est pass over. Il est clair que Avraham Avinu, il n'a pas fait le Korban Pessah parce qu'Hachem a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël. Et s'il a fait le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le Korban Pessah qui, pour la raison pour laquelle nous le faisons, quand nous disons pourquoi nous faisons le Korban Pessah, parce que Hachem passe ça, parce qu'Hachem a passé par-dessus. Mais il y a quelque chose de plus fondamental qui existait déjà au temps d'Abraham Avinu. Et nous, on fait le même Korban qu'Abraham Avinu, mais pour des raisons historiques, si vous voulez. C'est comme si la mitzvah de Korban Pessah qu'Abraham Avinu a faite, c'est probablement la mitzvah originale. Et pour nous, elle a pris un vêtement historique. Pour nous, le Korban Pessah qu'Abraham Avinu a fait, il a pris un vêtement historique. Alors, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est à quel titre est-ce qu'Abraham Avinu a fait le Korban Pessah? Ça nous dira pour nous aussi quel est le fond de cette mitzvah de Korban Pessah. D'accord, on dit, parce qu'il a passé par-dessus. Et visiblement, c'est pas ça la raison la plus profonde. Il y a un maral de Prague qui fait remarquer la chose suivante. Quand on mange le Korban Pessah, on fabrique le Korban Pessah, dans la version, nous, au moment où on avait les korbanot, c'est-à-dire telle qu'elle est écrite dans la Torah, il y a des règles. Le Korban Pessah, il se mange en chaboura. Le Korban Pessah, il se mange grillé. Le Korban Pessah, il se mange avec interdiction de casser les os pour en sucer la moelle. Le Korban Pessah, il se mange dans la chaboura en question. Il ne peut pas en sortir. Par conséquent, on va regarder un peu Dina Maral. Qu'est-ce qu'elles ont de commun, toutes ces lois? Les lois, elles ne sont pas arbitraires. Les lois, elles ont à voir avec l'idée du Korban Pessah. Or, ces lois concernant le Korban Pessah, elles ne sont pas applicables à d'autres korbanot. Alors, c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces lois? On va prendre la première. C'est pas la première que j'ai dite, mais on va prendre. Le Korban Pessah, il doit être grillé à cœur. Il est entièrement au feu. Par exemple, on va le griller à la broche. Mais si on prend une broche en métal, la partie de la viande qui est au contact de la broche, elle va cuire, elle ne va pas griller. Le métal va la chauffer et ça va cuire. Ça ne va pas griller. Alors on prend une broche en bois qui supporte le feu et qui, elle, justement, va permettre de griller aussi la partie qui est au contact de la broche. Donc tout dans le Korban Pessah doit être grillé. Alors maintenant, c'est quoi la spécificité de la viande grillée complètement à cœur? Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la viande bouillie, à la viande rôtie, à la viande... Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous allez en dire? Je parle à des cuisiniers. Quand la viande est grillée, comme ça, c'est la forme la plus compacte de la viande. D'accord? La viande, quand elle est grillée, complètement grillée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de liquide, en fait. Merci beaucoup. C'est presque trop, quoi. Mais c'est vraiment la forme la plus compacte. Le Korban Pessah, il se déroulait comme ça. Le 14 Nissan, on faisait la shrita du Korban Pessah, et le soir, on allait le griller et le manger. Les gens qui allaient manger ce Korban Pessah, c'était des gens qui s'étaient constitués en groupe, un groupe de gens, des gens d'une maison, peut-être la maison élargie, peut-être le quartier. Ces gens-là se mettent ensemble pour acheter le Korban Pessah. Ils achètent un Korban Pessah et du coup, ça devient ce qu'on appelle une chaboura. Chaboura, c'est la chandribo des gens qui sont liés les uns aux autres. Et donc, en ce qui concerne le Korban Pessah, ils vont tout faire ensemble. Bon, alors on va faire la shrita, puis ensuite tout le monde va. On va faire Zrikat Adam, les gens vont le manger, mais ils vont le manger comme tous les korbanot, ça c'est, il y a toujours. Dès qu'on a un korban, il a de la kdusha, donc, et donc, il doit être mangé dans un laps de temps défini, dans un lieu défini, et par des gens qualifiés. Il y a des korbanot qui doivent être mangés sur 2 jours et une nuit. Un jour, une nuit, un jour. D'autres korbanot qui doivent être mangés un jour, une nuit. Le korban Pessah, il est un peu spécial. Lui, il doit être mangé sur un laps de temps beaucoup plus court, qui fait l'objet d'une machloket, Tanaïm. Il y a une shita qui pense que le korban Pessah doit être mangé avant Chatzot, avant la minuit de la nuit du 14 au 15, avant la minuit. La minuit, aujourd'hui, en France, par exemple, c'est 1 heure moins 2 minutes, quoi. Ou non, 1 heure et 2 minutes, pardon. C'est 13 heures, 1 heure 50, oui. 1 heure 50, 2 heures moins 5 minutes, à cause du décalage horaire etc. Donc, si on avait un korban Pessah, il faudrait le manger avant Chatzot. Ça. Il y a une autre chita qui dit qu'on a jusqu'au matin pour le manger. Ok, ça veut dire, c'est restreint le temps. Pas dans lequel on peut le manger, c'est très restreint. On doit le manger en chaboura. Ensuite, on ne peut pas casser les os pour sucer la moelle. Ça veut dire quoi? Tu as un os, si tu le casses, tu fais de un, deux. Deux morceaux. Ça, on n'a pas le droit. Alors, vous avez déjà compris que tout dans le Korban Pessah proclame le un. Un au sens de compact, un au sens de la chaboura, un au sens des os qu'on n'a pas le droit de casser. Donc il y a cette idée du un. Donc, puisque c'est à la halakhot, elles ont comme dénominateur commun le un, ça veut dire que le Coran Pessah, c'est quelque chose qui proclame le 1. Nous, on sait, proclamer le 1, c'est proclamer que Hachem est Echad. Donc, Avraham Avinu, quand il faisait le Korban Pessah, il proclamait que Hachem était Echad. Et nous, ben nous aussi, on le proclame en disant que Hachem est Echad. C'est lui qui a montré en Égypte qu'il était le boss, donc il dirigeait tout. Et son peuple, le peuple d'Hachem, est un, il est singulier, complètement singulier. C'est un peuple comparable à aucun autre peuple. Donc nous, quand on apporte le Korban Pessah, à notre manière, historiquement, si vous voulez, on proclame qu'Hachem est Echad. Les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, eux aussi proclamaient que Hachem était Echad. Comment? Nous, quand on nous, quand on fait un korban. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Dans un korban, il y a deux parties distinctes. Il y a une partie qui est le travail sur le sang, une partie qui est le travail sur la chair, sur le bassard. Le travail sur le sang, dans tous les korbanot, il se fait toujours en recueillant le sang de la shrita dans un gobelet, et puis en allant, en s'approchant du misbéach, de l'autel, et le Kohen, il asperge avec l'index des gouttelettes de sang sur le misbéach. C'est ça qui apporte ce qu'on appelle la kapara de chaque korban. Fait la même chose pour le korban Pessah. Les Bnei Israël qui étaient en Égypte, ils ont fait le korban Pessah, mais il n'y avait pas d'autel. Donc ils n'ont pas pu faire le travail du sang comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont badigeonné les poteaux et les linteaux. Alors, du coup, si on veut que ça soit cohérent, il faut qu'on comprenne en quoi de badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons, c'est du même ordre que d'asperger avec des gouttelettes de sang sur le misbéach. Si on veut assurer la continuité de, enfin, ou la cohérence de cela. Le sang dans la Torah, le sang s'est assimilé au Nefesh. Nefesh dans l'âme humaine, c'est le plus bas niveau. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, c'est l'âme qui assure la survie pendant qu'on dort. C'est-à-dire ce qui en nous assure la vie. Donc le sang représente la vie au sens le plus élémentaire. Donc si on asperge, on envoie des gouttelettes de sang sur le misbéach. Ça veut dire que ce qui représente la vie, je l'élève sur l'autel d'Hachem. Je le dédie à Hachem. Les Bnei Israël, quand ils ont badigeonné, ils ont badigeonné à l'intérieur. C'était pour que ceux qui étaient à l'intérieur de la maison sachent pourquoi les premiers-nés de dans ces maisons-là ne sont pas morts, alors que tous les premiers-nés des maisons alentour, des goïms, sont tous morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas morts? Parce que dans ces maisons-là où on a aspergé, ça veut dire qu'on a fait le commun de ça. Ça veut dire que les gens ont compris qu'Hachem était Echad. Et donc, ça veut dire que si Hachem est Echad, ça veut dire on lui doit tout. Il est Echad, je lui dois tout. La conséquence de Hachem Echad, c'est Be'ahavta, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Me'udecha, tout. Donc, on lui donne. C'est le signe que on a donné notre vie, on a compris. Nous, aujourd'hui, le Corban Pessah, on ne peut pas le faire. Néanmoins, on fait quelque chose quand même. Le numéro 3, dans le numéro 4, pardon, dans les 15 étapes du Seder, Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz. Yachatz, vous entendez, Yachatz, c'est Khatsi, si on partage la matzah en deux. Deux morceaux. Le plus grand morceau, on le met de côté. On le met dans une serviette, on le met de côté. Le plus petit morceau, on le remet, ceux qui ont trois matzot, ils remettent le morceau entre les deux grandes matzot, de mettre ce entière sur la table. Quand on va manger, on va faire la mitzvah d'achilat matzah, alors on va penser que le pain, c'est un lechem oni, c'est-à-dire c'est à la fois un pain pauvre parce qu'il a ni sel ni sucre, et c'est aussi le pain du pauvre qui n'a pas autre chose, il se nourrit avec la farine et de l'eau et du feu. Mais le pauvre, il n'a pas de pain entier. Il a un morceau de pain. Le yahatz partagé, c'est fabriquer un morceau de pain. Bon, de telle sorte que quand on va manger la matzah, on va manger aussi, en tout cas, je ne vais pas entrer dans le détail, on va manger aussi un morceau de matzah au sens de le pain du pauvre. Mais ce qu'on a mis de côté, le grand morceau, là, quand on l'a partagé, on l'a mis de côté et on va le retrouver seulement tout à la fin du Seder. Ce morceau-là, il s'appelle Afikoman. Afikoman, ça veut dire dessert. Le Korban Pessah, ça se mange après le repas. Ça se mange, comme on dit, à la sova, quand on est déjà rassasié. Le Korban Pessah n'est pas la nourriture de la soirée. La nourriture de la soirée, c'est une chagiga en général, c'est-à-dire la viande qu'on a dédiée à la fête. Le Korban Pessah, on en mange la grosseur d'une olive, pas plus, parce que on est déjà plein, on est déjà satisfait, on a déjà atteint la satiété. Et la mitzvah, c'est de manger seulement un kézaït. Alors, on a repris cette idée d'un kézaït et on va manger un kézaït de cette matzah qui représente le Korban Pessah. Alors, vous remarquez que dans une représentation, on n'a pas fait quelque chose de l'ordre d'une approximation de. On aurait pu faire de l'agneau grillé. On aurait pu faire des côtelettes d'agneau, on aurait pu faire. Pour rappeler le Korban Pessah. Non, quand on fait pas la mitzvah, on fait pas des approximations. Si vous voulez, si on n'avait pas, si quelqu'un à Soukhot, il a pas d'étrog, il va pas prendre un citron. On prend quelque chose qui a rien à voir, mais qu'on investit du rôle de, tu vas remplacer au sens, tu vas nous faire penser, plus exactement, c'est nous qui allons donner du sens à cette matzah pour la faire apparaître, on va penser au Korban Pessah qu'on aurait dû manger à ce moment-là. Alors, il y a une chose qu'on a gardée deux choses donc qu'on a gardées du Korban Pessah, c'est d'abord qu'on va manger de cette matzah la grosseur d'une olive, comme on mangeait de cette viande du Korban Pessah la grosseur d'une olive. Et puis on va garder le zman, le laps de temps, jusqu'à Hatzot ou jusqu'au matin. L'Ibn Israël en Égypte, ils ont reçu l'ordre de manger leur korban pessah avec des matzot et sur des herbes amères. Et nous aussi, on va manger tout ça plus ou moins en même temps. Il y en a un qui a fait ça, qui met les choses en même temps, c'est Hillel. Le fameux korer, le fameux sandwich qu'on mange nous mangeons simplement de la matzah et du maror, puisqu'on n'a pas de, on n'a pas autre chose. On n'a pas le korban de Pessah, on ne peut pas. La matzah sur la matzah, ça se voit, on verrait pas. Donc, on mange. Kenasa Hillel, il faisait son sandwich avec de la matzah et en même temps, il mangeait en même temps la matzah et les herbes amères. Maintenant, on va regarder un peu. Nous aussi, on a une mitzvah de manger le korban pesach, al matzot umorim yochlu. Mais nous, on a une mitzvah à part, qui est de manger de la matzah. Et c'est ce qu'on fait quand on arrive après Maggid. Il y a Rortza, on va se laver les mains, parce qu'on va faire Motsi, et aussi on va faire Motsi, Matsa. On va faire Motsi parce que on va se laver les mains et on va manger du pain. Et on va faire Matsa parce qu'on va faire la mitzvah particulière de Achilat Matsa. Je vais manger de la Matsa. En particulier ce morceau-là. Nous, on mange de la matzah, pourquoi? Pourquoi nous, on mange de la matzah? C'est écrit. Matzah zu chez nous, ochlim al shum ma, al shum chez. Faudra réviser. Hein. Vous savez bien, on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Bnei Israël sont partis, sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec de la pâte qui aurait dû gonfler, donner un vrai pain normal, mais ils sont sortis dans la presse. Ils sont sortis très rapidement. Ils sont sortis dans la Béhala. Béhala, c'est presque la panique. Mais on comprend rien du tout. Les Bnei Israël, ils savaient depuis longtemps qu'ils allaient sortir d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait du pain avant? Pourquoi le pain, ils l'ont fait au moment du départ? T'avais le temps de faire du pain. Moi, il me semble que la matzah, pas plus exactement, je vais dire comme ça. Les Bnei Israël, quand on leur a dit qu'on allait sortir d'Égypte, ça voulait strictement rien dire. Si on vous dit on va aller au pôle Nord, au pôle Sud, je sais pas. Alors vous dites, quand il fait froid, je mets un pull, là je vais prendre trois pulls. On va simplement prendre plus. Mais quand on te dit tu vas sortir d'Égypte, et sortir d'Égypte, ça veut rien dire. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Ça veut rien dire. Donc ils n'ont rien préparé parce que je sais même pas si ils y ont cru, mais pas au point de faire des préparatifs, puisqu'ils n'avaient aucune idée de ce que on allait leur demander. Donc ils n'ont rien fait. Mais au moment de partir, il y avait un réflexe. On peut pas partir sans pain. Alors on a fait de la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter. Et donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Bnei Israël, quand ils sont sortis de Mitzray, ils sont sortis avec le même pain que celui que les Égyptiens leur donnaient à manger quand ils étaient esclaves. Ils auraient dû sortir avec un pain de liberté, un pain qui a gonflé, un pain, le pain qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Au début du Seder, quand on lève le plateau et sur lequel il y a les matzot, on dit à l'achma ania, ceci est le pain pauvre, le pain du pauvre, que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Ils ont mangé en Égypte parce que les Égyptiens leur donnaient ça à manger. Et pourquoi ils le donnaient ça à manger? Parce que ça ne tient pas au corps. Ils avaient mangé, et puis ça ne tient pas. Ça ne tient pas, on peut presque dire, un raisonnement presque physique. La matzah, elle n'est pas fermentée. Dans la digestion, il y a un processus comme de la fermentation. Quand tu manges du pain, il est déjà fermenté. Une partie de la digestion est déjà faite. Donc, le pain que tu manges, il sert à te donner de l'énergie. La matzah, faut prélever d'abord toute l'énergie pour pouvoir la digérer. Donc, quand tu as mangé, t'as pas vraiment mangé pour ajouter quelque chose, puisque tu as mangé une partie de l'énergie que tu as absorbée, elle est là pour digérer la matzah que tu as mangée. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Avraham Avinu, il a fait la mitzvah de manger la matzah. Pourquoi il mangeait la matzah? À quel titre il a mangé la matzah? Ce que je voulais dire, c'est que la matzah avec laquelle nos ancêtres sont sortis d'Égypte, cette matzah, elle représente pour moi l'impensable. Pourquoi il n'avait pas de pain? Parce que c'était impensable de sortir et que par conséquent, on n'a pas prévu de pain. On n'a pas prévu le pain parce que ça voulait rien dire sortir. Alors, si la matzah veut dire l'impensable, l'impensable, c'est aussi que Hachem est Echad, difficile à penser. On n'est pas dans un monde qui dit l'impensable, qui dit que Hachem est Echad. C'est notre Emouna qui dit Hachem. Nous, on voit le deux. Tout va par deux. Ou plusieurs, quoi, deux ou plus. Ce qu'Avraham Avinu a inventé, cette idée que il y a un balabaï du monde, il y a un propriétaire du monde qui s'occupe du monde, c'était totalement impensable. Nimrod, quand il a entendu qu'Avram pensait comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Avram dans la fournaise. C'est pire que l'opium du peuple. C'est n'importe quoi. Tout le monde était polythéiste, idolâtre. Et lui, il vient, il dit, Hachem est Echad. C'est pas une idole. C'est pas Akhenaton qui reconnaît qu'il y a un seul Dieu. C'est lui d'ailleurs. Mais il est monothéiste. Il est théiste, ça veut dire. C'est une idole. Nous, on n'est pas monothéiste. Le mot théos, qui est un théiste, c'est pas de chez nous, quoi. C'est bien de chez les Grecs. Donc Abraham Avinu, il a mangé de la matzah pour la même raison que nous, ou plus exactement, nous mangeons de la matzah pour la même raison qu'Abraham Avinu. Seulement, notre impensable à nous, c'est un instant impensable, un peu historique, quoi. Sortir d'Égypte, impensable. C'est pas encore l'impensable d'Abraham Avinu. Penser qu'il y a un seul Dieu, etc., qui est le maître. C'est une façon plus simple, si on veut, de penser l'impensable. OK. Et pourquoi est-ce que la matzah est réduite à de l'eau et de la farine? Parce que l'idée, en fait, on veut montrer que la nourriture de l'homme, à la limite, on ne peut pas vraiment se nourrir avec une seule chose. On est dans le deux. Il faut au moins de l'eau et de la farine. Les fruits, c'est autre chose, ouais, mais il faut au moins deux choses. C'est-à-dire, le un, il est vraiment pas, même pas pensable. On peut pas manger de la farine toute seule. On peut pas se nourrir d'eau uniquement. Tu veux manger la nourriture humaine de base, d'archibase, le pain, c'est au moins de l'eau et de la farine. Donc, il a choisi une nourriture la plus élémentaire qui soit pour aller dans le sens du un, pour aller dans le sens de l'impensable. C'est ce que nous faisons nous aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que Pessah est au printemps? C'est une halakha que Pessah doit être au printemps. C'est Chodesh HaAviv. C'est parce que Pessah doit être au printemps que le cas échéant, on ajoute un deuxième mois de Hadar. Parce que, comme on a un système, un calendrier lunaire, qui perd 11 jours par an sur le calendrier solaire, au bout de 3 mois, on a perdu 1 mois. De 3 ans, on a perdu 1 an, 1 mois. Donc on ajoute 1 mois à peu près 7 fois en 19 ans. Mais pourquoi est-ce que Pessah doit être au printemps? Pourquoi Abraham Avinu, il a mangé comme un Pessah? Pourquoi il a mangé la matzah au printemps? C'est pour être en phase avec la nature. La nature, elle démarre. Le moment de Pessah, c'est la toute première récolte. Les premières céréales qu'on peut récolter, c'est l'orge. Encore une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles Pessah doit être au printemps, c'est que le deuxième jour de Pessah, on apporte un corban qui s'appelle l'Omer. Et l'Omer, c'est un corban en orge. C'est de l'orge. Donc il faut que l'orge soit mûre pour qu'on puisse l'apporter comme corban. On peut pas apporter sur le Mizbéar, enfin, ou dans le Beth Amikdash, des choses qui sont pas mûres. Donc il faut être en phase. La Torah, elle n'est pas, elle ne nous demande pas d'être à contre-courant de la règle du fonctionnement du monde. Faut être en face. Le monde repart à ce moment-là. Alors c'est un commencement pour nous aussi. C'est un nouveau commencement. Parce que Rosh Hashanah, comme on l'a vu, nous on a Rosh Hashanah. Lors d'un mois, ils portent. Les mois dans la Torah, ils n'ont pas de nom. Moi, dans la Torah, ils ont des numéros. Le numéro 1, c'est Nissan. Rosh Hashanah, c'est en Tishri. Tishri, c'est le numéro 7. Donc, le paradoxe, c'est que nous, on a Rosh Hashanah qui se passe le 7e mois de l'année. Il n'est pas lié. Hein. Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. C'est le Rosh Chodesh du 7e mois. Donc Avraham Avinu, il était aussi en face. Donc il a fait aussi ça au printemps. Le Sipour Yetziat Mitzrayim, comme on a vu, le Sipour est l'essentiel. C'est pas ce qu'Hachem a fait en Égypte qui est l'essentiel. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tout ce que j'ai fait, je l'ai seulement fait pour que tu le racontes à toi, à ton fils, à ton petit-fils. Ça veut dire que c'est une espèce de récit national, si on peut parler comme ça. Mais c'est pas un récit national qui se raconte publiquement. Il se raconte en famille. Il fait l'objet d'une transmission. Ce récit-là, des fondamentales, parce que la raison pour laquelle Abraham Avinu a été choisi par Hachem, Hachem a dit, je le choisis parce que lui, il transmet. Il va transmettre à sa maisonnée les valeurs. Et nous, on doit aussi transmettre. Et le soir du Seder, c'est un moment privilégié de transmission. En fait, quand Hachem a dit à Paro, laisse partir mon peuple, parce qu'Israël, c'est mon Béror, c'est mon premier-né. C'est quoi un Béror? Un Béror, c'est quelqu'un qui transmet. On avait expliqué. Que le mot Bechor qui s'écrit avec trois lettres qui veulent dire chacune deux, bet dans les unités, kaf dans les dizaines et resh dans les centaines. Si vous voulez, dans notre langage, on dirait que Bechor, ça s'écrit 222. Pour un premier-né, c'est un peu compliqué quand même, hein, de l'appeler 222. Mais pourquoi il l'a appelé 222? Pourquoi il l'a appelé 2? Il l'a appelé 2 parce que il est d'une certaine manière, c'est Rabbi Yitzhak Kouchner qui dit ça, mais je ne crois pas que ça vienne de lui. Parce que le Bechor, c'est celui qui est en charge de transmettre l'enseignement du Père dans la nouvelle génération. Dans le langage de la nouvelle génération. C'est un transmetteur. Du clan Israël, il est dit qu'à la fin des temps, on va devenir Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim. C'est quoi un Kohen? On a beaucoup l'habitude de dire qu'un Kohen, c'est un prêtre. On a déjà vu plusieurs fois que les Kohanim, dans leur rôle de prêtre, c'est-à-dire faire la avoda au Beth Amikdash, ils travaillent 15 jours par an. Parce qu'il y a 24 groupes de Kohanim. Et chacun a un laps de temps pendant qu'il lui est en service. Donc, puisqu'ils sont 24, il y a 15 jours pour chacun des groupes. Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? D'accord, il y a aussi du travail, hein, le back-office et les trucs comme ça. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés étudier et enseigner. La fonction essentielle des Kohanim et les Levim, c'est d'étudier et d'enseigner. Et donc, ça veut dire que le clan Israël, son but, c'est de devenir un enseignant, étudiant, enseignant, par rapport au monde. Donc, on va transmettre l'enseignement d'Hachem au monde. Pas pour en faire des juifs, mais pour en faire même des goyim, et qui respectent Hachem, qui connaissent Hachem. Donc, nous, notre caractéristique, c'est d'être des enseignants. Donc ça, c'est les trois mitzvot avec le détour par ce que faisait Avraham Avinu pour bien voir qu'est-ce qu'il y a au fond de chez nous, notre version à nous, elle est historique. C'est comme si ce qu'Avraham Avinu avait compris, nous, on l'a revêtu d'un manteau historique. Et on a donné des explications historiques du genre, la pâte, elle n'a pas eu le temps de lever. Le Corban Pessah, il est là parce qu'Hachem a passé par-dessus les maisons. Mais ça, c'est seulement une, faut dire ça, la réalisation de l'idée fondamentale qui était vue, enseignée par Abraham Avinu dans un contexte particulier, dans le contexte d'un clan d'Israël qui doit être en galoute, en exil, en esclavage, qui doit en sortir, etc. La soirée de Seder. Elle se déroule en 15 étapes. 15 parce que quand on écrit 15, Yud Hey, c'est le Shem Hashem. Et 15 parce que il y a 15 degrés pour passer d'un niveau dans le Beth Amikdash au niveau supérieur. Et que sur chacune des marches, 15 marches, il y a un Shir HaMaalot, un chant, un cantique, un psaume de David, qui commence Shir HaMaalot, qui est dit, chacun, il y en a juste 15. Et donc, ils se sont dit, chacun, sur une marche. Donc, ça veut dire, c'est une progression. C'est un processus, la sortie d'Égypte. C'est pas un événement. Un processus. C'est un processus qui n'est jamais fini. Puisqu'on nous dit, tu dois considérer comme si toi, tu sortais maintenant d'Égypte. Alors, dans les 15 marches, dans les 15 étapes, il y en a une qui a deux casquettes. Mais une casquette, c'est de Horaïta, une casquette de Rabbanan. C'est le kiddush. Le kiddush, c'est le kiddush comme toutes les semaines, comme toutes les semaines dans le Shabbat, comme toutes les fêtes, etc. Sauf que ce kiddush-là, il est un peu spécial, dans la mesure où, quand on boit le verre du kiddush, on boit aussi la première des quatre coupes qu'on doit boire le soir du Seder. Et ces quatre coupes qu'on boit le soir du Seder, c'est un din de Rabbanan, c'est pas un din Minatora. C'est basé sur des versets, c'est-à-dire on fait référence à des versets, mais c'est un din de Rabbanan. Donc on fait ça, c'est la première. En vérité, dans les quatre coupes, celle-là, elle n'est pas spéciale, puisque de toute manière, on l'aurait bu au titre du kiddush. Et la troisième qu'on boit après Birkat Hamazon, on l'aurait bu de toute manière en titre de la bracha de Boré qu'on fait après Birkat Hamazon en général. Donc en vérité, il n'y en a que deux qui sont vraiment spécifiques, qui sortent de l'ordinaire. Mais même celles qui ne sortent pas de l'ordinaire, on leur donne une connotation différente. C'est typique de ce qu'on fait dans la Torah, quoi. De prendre des choses, même des choses qui sont, viennent de l'extérieur, et on leur donne un sens complètement différent. Le numéro 3 s'appelle Carpas. On a déjà parlé de ça. Le carpas, c'est un légume qu'on trempe dans l'eau salée ou dans le vinaigre. À quoi on joue? On joue, on en fait un apéritif. Un apéritif, c'est quelque chose qui est là pour ouvrir l'appétit. Bon, mais si c'est là pour ouvrir l'appétit, pour mieux manger, il faut, c'est un peu du sadisme parce que on ouvre l'appétit maintenant et on mangera seulement bien plus tard. Alors c'est pas ouvrir l'appétit pour manger. C'est ouvrir l'appétit pour la liberté. Pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir l'appétit pour la liberté? Parce que quelqu'un qui est un esclave, vraiment profondément esclave, il n'a aucune idée de la liberté. Et c'est même pas ça qui le préoccupe. La plupart des gens qui ont été sortis de l'idolâtre de l'esclavage, c'est les gens de l'extérieur qui sont venus leur raconter qu'il n'y a pas de raison que tu sois esclave. Mais comment, ok, d'accord, mais comment en trempant une pomme de terre, du cerfeuil, du persil, du radis dans de l'eau salée ou dans du vinaigre, comment ça peut ouvrir à la liberté? Alors, la vérité, c'est que c'est difficile. Et je vais vous dire comment on peut faire le lien. Le lien, il est un peu acrobatique. Pardon. Quand on mange le carpas, c'est un légume. Donc, on fait la bracha, poré, peri, à Adama. Plus tard, On a une mitzvah de manger des herbes amères. Les herbes amères, on va les manger après matzah. Motzi, matzah, maror. Alors, puisqu'on les mange après motzi, ça veut dire qu'on est déjà dans le repas. Et si on est dans le repas, on n'a pas besoin de faire des brachot sur tous les éléments du repas. Seulement, la halakha, elle est que quand quelque chose n'appartient pas naturellement au repas, il faut quand même faire il faut quand même faire une bracha. Y a une discussion, par exemple, il y a des gens qui disent, et donc ils prennent un café, et ils font une bracha sur le café parce qu'ils pensent que ça fait pas partie du repas. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que ils disent que ça fait pas partie du repas, mais ils le prennent parce qu'on peut pas penser manger sans finir ça par un café. Alors. Ne va pas entrer dans cette question pour l'instant. En tout cas, les herbes amères, elles font pas partie du repas. Donc, il faudrait faire une bracha. La bracha m'aurait pris à Adama. On la fait pas. On la fait pas parce qu'on se dit que la bracha qu'on a faite sur Boré Priya Adama du Karpas, elle vaut aussi sur les herbes amères. Bon, en théorie, il faudrait y avoir pensé, etc. Mais bon, c'est déjà un ridouche parce que c'est vraiment beaucoup plus tard. Mais en tout cas, il y a un lien entre le karpas et les herbes amères par le biais de la bracha. La bracha sur le karpas vaut aussi pour les herbes amères. Ok, mais ça fait toujours pas le lien avec la liberté. Alors la vérité, c'est que la liberté elle a commencé comment pour les Bnei Israël? Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte parce qu'Hachem s'en est occupé. Mais à partir de quand ils s'en est occupés, puisque quand ils étaient esclaves, ils s'en occupaient pas. Il y a eu un moment où les souffrances des Bnei Israël avaient atteint un niveau inacceptable, et les Bnei Israël ont crié. La vérité, ils n'ont pas du tout crié vers Hachem. Ils n'ont pas crié Hachem au secours. Ils ont crié aïe! Ou je sais pas comment ils ont crié. Mais Hachem a validé ce cri comme s'il était adressé à lui. Et un cri adressé à Hachem, c'est l'embryon de la prière. La prière, c'est quoi? C'est de demander à Hachem. Donc, l'embryon de la prière, c'est quand tu cries vers Hachem. Tu lui demandes, aide-moi. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé quand les souffrances étaient intenables. C'est-à-dire, ça a commencé avec les herbes amères. Donc les herbes amères, elles sont réminiscentes. Elles sont liées avec la liberté. Quand tu manges les herbes amères, c'est vrai, tu penses, ils nous ont rendu la vie impossible, mais finalement, ça nous a aidés à crier vers Hachem. Et par conséquent, c'est ça le lien. Le lien du Carpas avec la liberté, Il passe par les herbes amères grâce à la bracha commune et grâce au fait que les herbes amères, elles sont le signe de quelque chose qui est un désir de liberté qui s'exprime même pas encore vraiment, quoi. Simplement, c'est un embryon d'embryon de recherche de la liberté. C'est ça le Carpas. Alors, entre le Kiddush et le Carpas, on se lave les mains. Kadesh ou Khatz. Khatz, ça veut dire laver les mains. Pourquoi on se lave les mains? On se lave les mains parce qu'il y a une halakha qui dit que quand on trempe quelque chose dans un liquide, une nourriture dans un liquide, a priori, on doit se laver les mains. Avec ou sans bracha, mais on doit se laver les mains. C'est une halakha qui est bien respectée par les Sfaradim, très peu par les Ashkenazim. C'est tellement peu respecté par les Ashkenazim qu'il y a des Haggadot de Pessah qui disent à Rochsa, à Uchratz, le maître de maison se lave les mains. Il n'y a que lui qui se lave les mains. Et du coup, les enfants, ça aide les enfants à poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se lave les mains? On n'est pas en train de manger du pain. Ou en Ashkenaz standard, on se lave les mains seulement quand on mange du pain. Pour les Sfardim, c'est rien que de très normal. Donc ça veut dire, si vous êtes Sfarad et que vous trempez vos croissants dans le café au lait, café, je sais pas, faut vous laver les mains avant. Mais seulement si vous êtes Sfarad. Les Ashkenazim, ils font pas ça. Je sais pas pourquoi là, ils le font pas, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première mitzvah, un peu spéciale, elle nécessite une
Bon.
préparation. Se laver les mains,
Bon.
c'est une préparation. OK? Je me prépare à quelque chose. Et donc, je me purifie, si tu peux parler comme ça. Tout, en fait, tout ce qu'on fait a toujours besoin d'une préparation. On n'en est pas toujours conscient, mais les choses, elles ne peuvent pas vraiment réussir si on n'a pas préparé. Qu'est-ce qui s'appelle préparation? Ça, c'est une discussion. C'est le numéro 3. Le 4, on en a parlé, c'est Yahatz. Et ensuite, le 5, c'est Magid. C'est le récit. Alors, on avait déjà dit, le récit, il a des règles. La règle, c'est qu'on va du négatif vers le positif. La règle, c'est que ça doit être sous forme de questions-réponses. C'est en général question-réponse et question des enfants à leurs parents. Pas obligatoirement des enfants en bas âge. C'est justement un problème de transmission. On va interroger celui qui est dépositaire de l'enseignement de la génération d'avant pour qu'il transmette à la nouvelle génération, qu'il fasse jouer au clan Israël son rôle de Bechor. Il joue, pardon, ce rôle. Et encore une chose. C'est que cette soirée-là, comme on est sorti de l'esclavage et qu'on a atteint un certain degré de liberté, alors On se conduit comme les gens libres. Il se trouve que les gens libres, au moment où Chazal ont mis par écrit, enfin, ils ont décidé ces choses-là, ces gens, les gens libres, ils mangeaient sur des lits d'apparat. Je ne sais pas si vous avez des lits d'apparat. Si vous en avez, vous pouvez manger sur les lits d'apparat. Sinon, on fait attention de s'accouder sur le côté gauche, pas s'accouder, nous sommes ça pensif, tristounet sur la table, mais sur la chaise, si vous avez un fauteuil, sur le bras du fauteuil, sinon, moi je mets ma chaise à l'envers. Moi je fais comme ça. C'est pas besoin de faire comme ça, hein. Je fais comme ça parce que. Mais seulement ça va seulement si ça c'est pas trop comme je suis petit. Mais bien c'est très bien, on est vraiment soutenu et puis c'est pas trop vert, c'est pas trop horizontal, c'est bon. Alors ça, on y fait particulièrement attention quand on boit le vin, quand on mange la matzah, quand on mange la ficomane. Non, ça. Au reste du temps, si tu veux, tu le fais, si tu veux pas, tu fais pas. Donc, c'est censé rappeler une attitude de liberté. Aujourd'hui, ça nous embête surtout, quoi. On est quand même bien mieux assis dans un fauteuil normal que. Peut-être faut dire, c'est la liberté, ça a un prix. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai assez toussé.
Merci.